RFI, 21h à Paris, 20h en temps universel.
Christophe Paget.
Bonsoir. À la une de ce journal, la remise de 4 corps d'otages israéliens par le Hamas. Avant de les rendre, le mouvement islamiste avait exposé les cercueils sur une estrade à Khan Younes, dans la bande de Gaza. L'ONU parle de mise en scène abjecte et cruelle. En Ukraine, Volodymyr Zelensky reçoit Keith Kellogg, l'émissaire de Donald Trump, et plaide pour des relations solides entre les deux pays. Hier, le président américain l'avait traité de dictateur sans élection. Donald Trump, qui, vous le savez, a gelé le financement américain de l'aide au développement, l'USAID. Exemple dans ce journal à Mexico City, où les ONG craignent pour leur survie. Enfin, mauvaise nouvelle, à quelques jours des législatives en Allemagne, Mercedes-Benz prévoit de réduire ses coûts, de délocaliser et éventuellement des suppressions d'emplois. En Israël, ce soir, des milliers de personnes ont observé une minute de silence sur la place des otages à Tel Aviv. Une minute de silence pour les 4 otages morts dont les dépouilles ont été rendues aujourd'hui par le Hamas. C'était la première fois que le mouvement islamiste palestinien rendait des corps d'otages depuis l'attaque du 7 octobre. Les cercueils sont arrivés en début d'après-midi à Tel Aviv, dans un institut médico-légal. Des centaines de personnes s'étaient rassemblées à proximité avec des drapeaux israéliens pour leur rendre hommage. Mais quelques heures plus tôt, à Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza, le Hamas avait exposé les cercueils sur une estrade. Anver Daguet.
Peu avant la remise des corps à la Croix-Rouge, une cérémonie funeste a été organisée par des combattants cagoulés et armés du Hamas qui ont exposé sur un podium les 4 cercueils portant chacun la photo d'un des otages. Au-dessus, un poster du premier ministre israélien, le visage maculé de sang et affublé de dents de vampire. Des images à peine supportables selon la chef de la diplomatie allemande qui dénonce sur X la terreur sans limite du Hamas. Mes pensées vont vers les familles, a-t-elle ajouté. J'espère qu'elles pourront bientôt faire le deuil de leurs proches et les enterrer dignement. Benjamin Netanyahou a lui affirmé dans une déclaration vidéo que son pays était fou de rage contre le Hamas, qu'il a qualifié de monstre. Nous ramènerons tous nos otages, détruirons les meurtriers, éliminerons le Hamas et ensemble, avec l'aide de Dieu, nous assurerons notre avenir, a-t-il poursuivi. Le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a lui qualifié d'abject et cruel cette mise en scène et a dénoncé une parade des corps qui va à l'encontre du droit international qui stipule le respect de la dignité de la personne décédée. Sa famille.
Anne Verdaguet, des otages israéliens vivants doivent eux être libérés ce samedi. Hier, le Hamas s'était dit prêt à libérer en une seule fois tous les otages restants dans le cadre de la deuxième phase de la trêve. Et puis, on vient d'apprendre qu'en Israël, à Jérusalem, des explosions ont touché plusieurs bus dans le centre de la ville. La police parle d'un attentat terroriste présumé. Parallèlement, demain, plusieurs dirigeants arabes se réunissent à Riyad. Seront entre autres représentés l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, la Jordanie ou encore l'Égypte. Objectif, s'entendre sur la réponse à donner à Donald Trump après sa proposition de placer la bande de Gaza sous contrôle américain et de déplacer la population palestinienne qui y vit. Le rendez-vous était attendu. Après les insultes proférées ces derniers jours par Donald Trump à l'encontre de Volodymyr Zelensky, le président américain a traité hier son homologue ukrainien de dictateur sans élection. Et aujourd'hui, Volodymyr Zelensky recevait l'émissaire de Donald Trump, Keith Kellogg. Il a qualifié sa réunion avec l'émissaire américain d'extrêmement productive. Et il a plaidé pour des relations solides entre l'Ukraine et les États-Unis qui profitent au monde entier. Ont été évoquées entre autres, selon le président ukrainien, des garanties de sécurité efficaces. Pendant ce temps à Washington, le ministre des Finances a affirmé que les États-Unis étaient prêts à durcir ou alléger les sanctions qui visent la Russie en fonction de la tournure que prendront les discussions sur l'Ukraine. RFI, 14h04 à Mexico. C'est une des nombreuses décisions prises par Donald Trump depuis son arrivée au pouvoir qui ont fait du bruit. Le gel du financement de l'aide américaine au développement, l'USAID. Car ce gel a des conséquences partout dans le monde. Exemple, au Mexique, où les organisations humanitaires craignent pour leur survie. C'est le cas de Casa Frida, une ONG qui fournit un refuge aux migrants issus de la communauté LGBT. Plus de la moitié de son financement vient des États-Unis et il a été suspendu. Le reportage à Mexico City de notre correspondante Marine Lebeg.
C'est l'heure du cours de salsa à Casa Frida. Les résidents descendent dans la cour du refuge et tout le monde entoure la bénévole qui s'improvise professeur pour l'après-midi.
Beaucoup de monde est venu nous aider sous forme de volontariat.
Mariana de la Cruz est l'une des responsables de Casa Frida. Depuis le gel du financement américain, le refuge a dû trouver des alternatives plus économiques. Et pour cause, 60% de son budget dépendait de ces aides.
On a 5 projets en cours qui devaient être financés par les États-Unis, mais depuis que la nouvelle administration américaine a publié ses décrets, leur financement a été suspendu pour 90 jours. Et comme il s'agit de la communauté LGBT et des migrants, on a très peu d'espoir de les récupérer.
Une situation qui met en danger la survie du refuge. Assise dans un coin du patio, Johanna, une péruvienne de 36 ans, le sait. Pour elle, l'heure n'est pas à la danse.
Je suis partie de mon pays car j'y subissais une violence extrême. Ici, ils m'ont accueillie les bras ouverts. Mais maintenant, je ne sais pas ce qu'il va se passer, s'ils vont pouvoir continuer à m'aider. Si ce refuge ferme, je ne saurais pas où aller. Je terminerai sûrement dans la rue sans la protection que m'apportait Casa Frida.
À l'image de ce refuge, les organisations humanitaires mexicaines doivent désormais faire sans les 100 millions de dollars qu'elles recevaient des États-Unis. Marine Le Bègue, Mexico, RFI.
On parle maintenant sanctions financières des États-Unis, des sanctions qui viennent d'être annoncées contre l'ancien ministre de la Défense rwandais, James Kabarebe, que Washington accuse d'orchestrer le soutien des troupes rwandaises aux rebelles du M23 dans l'est de la RDC. Visé aussi par ces sanctions, Laurence Kanyuka, le porte-parole de l'AFC M23. Une décision injustifiée, selon la porte-parole du gouvernement rwandais, Yolande Makolo, qui appelle la communauté internationale à soutenir et non saper les efforts régionaux en cours pour une solution politique. En Côte d'Ivoire, les autorités françaises ont officiellement rétrocédé ce matin le camp militaire de Port-Boué aux autorités ivoiriennes. C'est la fin de 50 ans de présence de l'armée française dans cette base située près d'Abidjan. Les ministres de la Défense des deux pays, Tene Birahima Ouattara et Sébastien Lecornu, étaient présents. Sébastien Lecornu qui a précisé que la France transformait sa présence mais ne disparaissait pas. En Inde, le BJP, le parti nationaliste hindou du Premier ministre Narendra Modi, soigne sa prise de pouvoir dans la capitale. Après avoir remporté les élections à New Delhi, une première depuis plusieurs décennies, il a choisi Rekha Gupta, une fidèle du parti, pour diriger cette région. Et c'est un signal envoyé à l'électorat féminin du pays. À Bangalore, la correspondance de Combastin.
Rekha Gupta. Ce jeudi, l'enthousiasme était à son comble parmi les partisans du Premier ministre dans la capitale. Rekha Gupta, la nouvelle dirigeante de New Delhi, prêtait serment. Le parti AAP, qui a incarné pendant 10 ans une résistance à Narendra Modi, a finalement été vaincu lors des législatives le 8 février. Rekha Gupta est une militante fidèle des nationalistes hindous, dont elle rejoint les branches idéologiques et politiques en tant qu'étudiante. Elle entame ensuite sa carrière politique à Delhi comme conseillère municipale. C'est la seule femme ministre en chef des 15 États dirigés par le BJP, un choix remarqué par la presse. Inconnue il y a quelques jours, Rekha Gupta doit désormais tenir les promesses du BJP pour la capitale de l'Inde. Des mesures sociales comme des aides financières pour les femmes ou des assurances médicales pour les plus pauvres. Surtout, un plan d'action environnemental contre la pollution catastrophique de l'air et de la rivière Yamuna. Beaucoup l'ont promis sans résultat autour du BJP de s'y essayer. Combastin, Bangalore, RFI.
À quelques jours d'élections législatives cruciales en Allemagne, une mauvaise nouvelle de plus pour l'industrie allemande. Le secteur de l'automobile ne va pas mieux. Mercedes-Benz a annoncé aujourd'hui que ses bénéfices avaient chuté et parle d'un plan d'économie. Au programme, une réduction des coûts de production et éventuellement des suppressions d'emplois. Vincent Cotard.
L'année 2024 a été morose pour le constructeur allemand Mercedes-Benz. Une baisse d'un tiers de ses bénéfices nets et une perspective qui n'annonce rien de bon en 2025. Le constructeur a annoncé un plan d'économie de 5 milliards d'euros et une réduction de ses coûts de production de 10% à l'horizon 2027. Pour y parvenir, la marque allemande prévoit de délocaliser une partie de sa production en Hongrie, où les coûts sont largement inférieurs à ceux de l'Allemagne. Des suppressions de postes sont aussi à prévoir. Combien ? On ne sait pas, mais la direction dit vouloir privilégier les non-remplacements et des départs à la retraite anticipés. Un plan semblable à celui de son concurrent Volkswagen, lui aussi dans le dur, est contraint de supprimer 35 000 postes et de délocaliser une partie de sa production. Des difficultés dues au recul du marché en Chine et à la complexité du virage électrique pour l'automobile allemand. La menace d'une augmentation des droits de douane de Donald Trump plane aussi sur le milieu, alors que l'Allemagne exporte 13% de sa production automobile vers les États-Unis.
En France, la loi d'orientation agricole a été définitivement adoptée au Parlement, de justesse, avant le Salon de l'agriculture. L'objectif était de répondre à la grogne du secteur. Le texte a été largement adopté, mais il est critiqué à gauche. la gauche qui fustige des renoncements environnementaux, avec particulièrement un article en ligne de mire, un article qui prévoit une dépénalisation des infractions en cas d'atteinte à l'environnement si elles ne sont pas commises de manière intentionnelle. RFI, 21h10 à Paris.